Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emeline. Salut Emeline.
Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien, très contente de venir enregistrer cet épisode ici à Lille avec toi.
Ouais, c'est ça, parce que là, ouais, c'est pas un épisode classique où je suis toute seule, où je suis en visio, non, là il y a Emeline vraiment en face de moi, donc c'est très sympa. Et Emeline, est-ce que tu peux te présenter à mon audience?
Bah avec plaisir Juliette, donc je m'appelle Emeline, j'ai 35 ans, je suis diagnostiquée du syndrome des ovaires polykystiques depuis que j'ai 17 ans, donc c'était un diagnostic précoce à l'époque et j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance d'être diagnostiquée si tôt. Dans la vie, je suis gestionnaire administrative et financière et depuis 3 ans maintenant, je vice-préside SOPK Europe, qui est la première association française et européenne de lutte contre cette pathologie, contre le syndrome des ovaires polykystiques, à travers des missions assez diverses et qui se sont beaucoup étendues, je dirais, depuis la création de l'association en 2018, qui sont notamment de l'information, avec des informations vérifiées sur la pathologie à destination des personnes diagnostiquées, des actions de sensibilisation, parce que nous, on a quand même un objectif de faire reconnaître cette pathologie de manière plus juste, hein, puisque, comme je disais, c'est assez minimisé, de soutien à la recherche, de travail aussi avec les professionnels de santé autour de cette pathologie, et puis aussi maintenir aussi le lien entre les personnes diagnostiquées et les professionnels de santé, mais aussi de lutte contre la désinformation, puisque je pense qu'on va en parler dans le podcast, mais il y a énormément de désinformation sur cette pathologie, comme de manière générale, je pense, sur les maladies qui touchent les femmes.
Ouais, exactement, ouais. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu aussi t'inviter, hein, c'est pour parler de SOPK, d'alimentation, aussi de culture des régimes, parce que bah, mine de rien, c'est un sujet.
Il y a
aussi
du lien.
Ouais. Et d'ailleurs, ouais, est-ce que tu pourrais présenter ce qu'est le SOPK?
Alors, effectivement, bah, c'est un mot dont on entend plus parler ces derniers mois, ce qui est très positif. On en entend plus parler qu'avant, mais du coup on lit aussi un petit peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Donc si je devais te donner la définition, le SOPK c'est une maladie endocrinienne chronique et évolutive qui touche en fait environ aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est vraiment à l'échelle mondiale, hein, une femme sur sept, donc c'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup, ouais.
C'est beaucoup trop. Les causes du SOPK aujourd'hui, elles sont génétiques, épigénétiques, donc c'est-à-dire l'expression de nos gènes, mais aussi environnementale. Hein. La recherche a mis en avant qu'il y avait un facteur environnemental à la pathologie. Aujourd'hui, c'est l'endocrinopathie la plus répandue chez les femmes en âge de procréer.
Okay.
Et c'est aussi, voilà, on a parlé du sujet de l'infertilité récemment, alors le président en parlait avec des termes très très maladroits, mais le SOPK en l'occurrence, c'est la première cause d'infertilité dite primaire, c'est-à-dire pour la première grossesse chez les femmes, mais on en parle beaucoup sous cet angle. Il y a aussi beaucoup d'autres conséquences sur notre santé, sur la santé des personnes qui en sont diagnostiquées à moyen et long terme, et surtout des symptômes qui vont vraiment dégrader la qualité de vie. Donc il y a notamment des signes d'hyperandrogénie, des troubles métaboliques, la résistance à l'insuline, la prise de poids inexpliquée ou la difficulté à en perdre, la fatigue chronique, les douleurs, etc. Quand je parle de signes d'hyperandrogénie, c'est typiquement l'acné à l'âge adulte, la perte des cheveux, l'alopécie androgénique, ou encore l'hyperpilosité. C'est-à-dire, je ne parle pas des poils, hein, qu'on a sur les avant-bras. D'ailleurs, toi aussi, tu es brune, je vois que tu en as. Ça, tout, c'est tout à fait normal. Ou sur les mollets, je précise toujours que l'hyperpilosité ou l'hirsutisme, c'est quand on a des poils sur des zones dites, je mets ça entre guillemets, là, pendant que je te parle, masculines, c'est-à-dire des zones où on ne s'attend pas à ce que les femmes aient des poils. Donc, je pense notamment aux joues, au menton, sur les épaules, sur le torse, sur le ventre, etc. Tout ça, c'est quand même des signes, des manifestations cliniques de la maladie qui vont détériorer la confiance en soi et au final, finalement, la qualité de vie, parce que ça va avoir un impact sur notre vie sociale, notre vie scolaire, plus tard notre vie amoureuse, notre vie professionnelle aussi. Donc voilà, je trouve que c'est une pathologie dont on minimise beaucoup l'impact sur la vie des personnes diagnostiquées.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle plus, j'ai l'impression, ces derniers temps, un peu comme l'endométriose. Enfin, moi, ça fait quelques années en fait que j'ai découvert le SOPK. Pourquoi, selon toi, on en parle plus aujourd'hui et en quoi c'est un enjeu de santé publique maintenant ?
Alors, bah pour moi, aujourd'hui, on en parle davantage et je pense vraiment que c'est multifactoriel.
Ouais.
Déjà, les réseaux sociaux prennent, par rapport à l'époque de mon diagnostic, donc en 2005, par exemple, prennent une place dans nos vies qui permettent justement de libérer la parole sur ces sujets.
Ouais.
En ce sens, il y a aussi eu un rôle important qui a été joué à la fois par le mouvement féministe, je pense, et par le mouvement body positive, qui a, parce que comme tu le sais, le SOPK, ça va avoir quand même des conséquences sur notre corps, sur la perception de notre corps, etc., notre
ouais.
confiance en nous. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'injonctions autour de la pathologie, j'imagine qu'on va en parler.
Ouais.
Et tous ces mouvements, en fait, ont contribué à l'ouverture de la parole sur le SOPK et des symptômes qui ont tendance quand même à nous faire honte et dont on a beaucoup de mal à parler.
Mmh.
Moi, j'aime me dire aussi que l'association, quand même, depuis 5 ans, a bien mené son rôle au niveau du militantisme, justement pour la reconnaissance de la pathologie. Donc ça
ouais.
fait quand même, comme je te disais, partie de nos missions.
Mmh.
Et puis, dernier point, c'est aussi la lutte contre l'endométriose qui a, je pense, aussi creusé les tranchées. Elles ont été assez pionnières sur le sujet. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis le lancement du plan endométriose il y a un peu plus d'un an maintenant, hein, finalement.
Ouais.
On a tendance à l'oublier, mais il y a quand même 20 ans de militantisme associatif derrière.
Ouais, c'est vrai.
J'espère que pour le SOPK, ce sera moins long. En tout cas, on y travaille. Mais bon, ça a aussi un peu ouvert le chemin pour nous.
Mmh.
Puisque les douleurs des femmes ont été plus
ouais.
comment dire mises en avant, évoquées plus souvent.
Ouais, voilà.
Et puis au niveau de la santé publique, pourquoi c'est un sujet en santé publique ? Alors déjà rien que la prévalence, une femme sur sept, hein, si on met ça sur la population française, ça fait 2,5 millions de femmes à peu près
même. C'est pas rien quoi.
non, c'est beaucoup de monde.
Ouais.
C'est conséquence hein, sur notre santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont dites secondaires, qui sont en fait provoquées par le SOPK. Ça, on a encore du mal à s'en rendre compte aujourd'hui. Si un SOPK est mal ou pas pris en charge, si on n'en tient pas compte, en vieillissant, on peut développer des pathologies comme le diabète de type 2, où il y a un risque métabolique, un risque de développer des maladies cardiovasculaires qui sont plus importants. Et ça, en fait, ça en fait un sujet de santé publique aussi. L'infertilité, qui est devenue, a priori, ça y est, on se rend compte que c'est un sujet préoccupant aujourd'hui. Et puis le coût aussi. Que ça impute sur notre système de santé. Le coût visible, la prise en charge médicale, les patientes ont un reste à charge qui est quand même très important,
ouais.
mais aussi le coût caché, c'est-à-dire les journées d'absence parce que tu peux pas aller travailler à cause de la pathologie, de ses symptômes, etc.
Les traitements laser pour les poils.
Ah non, ça c'est pas pris en charge, écoute.
Ouais, c'est ça, c'est un coût caché.
Oui.
Ouais, non.
Oui, tu comprends, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu comprends aussi que les personnes qui en sont diagnostiquées sont lésées à tous les niveaux, y compris financièrement en fait.
Au vu
du reste à charge.
Ouais.
Donc ça a quand même des conséquences sur notre vie qui sont importantes. Et puis dernier point qui font que le SOPK est un sujet de santé publique, c'est l'ampleur de la désinformation aussi.
Ouais, carrément.
Ça peut amener à des comportements de mise en danger, on va dire.
Ouais, on va en parler. Et comment on diagnostique du coup un SOPK en fait ?
Alors, pour le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, ça se fait par un gynécologue ou un endocrinologue.
Ouais.
Et en fait, c'est un diagnostic qui se fait en deux étapes. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle un diagnostic par élimination.
Okay.
Parce qu'il y a beaucoup de symptômes du SOPK qui sont en fait similaires à des symptômes, par exemple, de l'hypothyroïdie. On peut penser aussi à l'endométriose, pour les douleurs pelviennes, de l'hyperprolactinémie, etc. Donc, on va s'assurer que c'est pas tout ça, d'abord, avant toute chose. Si il n'y a aucune raison autre, s'il n'y a pas de diagnostic d'une de ces pathologies, on va se pencher sur des critères dits de Rotterdam. Ce sont les critères en fait qui sont aujourd'hui en vigueur pour faire le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques dans les règles de l'art. Je le dis parce qu'on voit trop souvent des patientes qui font une imagerie des ovaires, une échographie, et qui disent l'association, on voit encore ces messages parfois, j'ai 7 follicules sur les ovaires, j'ai le SOPK. Non, c'est pas si simple. Donc les critères dits de Rotterdam. Le premier critère, c'est des signes d'hyperandrogénie clinique et ou biologique. Donc clinique, c'est ceux dont je t'ai parlé, c'est l'acné adulte, l'hyperpilosité, la perte des cheveux. biologique, là, c'est quand on voit un taux de testostérone important à la prise de sang. On peut présenter des signes d'hyperandrogénie clinique et avoir une testostérone qui est dans la norme, c'est possible.
Ok.
La deuxième, effectivement, c'est la présence de follicules en surnombre à l'imagerie des ovaires.
Ouais.
Donc, c'est pas 7 ou 8, hein, c'est 20, ouais. Et souvent, à 20, c'est parce qu'ils s'arrêtent de compter.
Ah ouais, ok, ouais.
Voilà. Mmh. Moi je me souviendrai toujours, c'est que la première fois que j'ai fait l'imagerie des ovaires, on m'a dit qu'ils avaient un aspect de gruyère.
Ok, ouais, voilà, c'est belle image.
Voilà, mais effectivement, je comprends, c'est pas très... c'est une manière de voir les choses, mais bon, voilà, donc en tout cas, ils ont un aspect multifolliculaire. Mm-hmm. Maintenant, cet examen peut aussi être remplacé par un dosage de l'AMH.
Okay.
Donc ça, c'est depuis l'été dernier, puisque c'est suite aux dernières recommandations internationales qui ont été faites, qui ont été établies pour le diagnostic et le suivi de la pathologie.
Okay.
Et le troisième critère, c'est des cycles irréguliers et ou anovulatoires.
Okay.
Donc irréguliers... moins de 20 jours ou plus de 35 jours.
D'accord.
Et donc pour le diagnostic du SOPK, on estime qu'il faut avoir deux de ces trois critères.
D'accord, ouais.
T'es pas obligé d'avoir les trois. Souvent, on a les trois, mais t'es pas obligé d'avoir les trois.
Ouais, ok.
Voilà.
C'est pas simple, en fait, d'être diagnostiqué SOPK. Il y a quand même un...
Oui. Bah, disons qu'avant de se pencher sur les critères de Rotterdam, effectivement, il faut passer par l'élimination d'autres pathologies, puisqu'elles ont aussi des conséquences sur la santé. Mm. Et donc, c'est important d'avoir un diagnostic, hein, si on a une hypothyroïdie. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on passe par là avant de se pencher sur les critères de Rotterdam.
Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est diagnostiqué? Parce qu'il n'y a pas de traitement actuellement, c'est ça? Enfin, qu'est-ce que dit la recherche d'ailleurs sur ça? Est-ce qu'il y a des avancées dernièrement?
Alors, effectivement, non, il n'y a pas de traitement curatif, voilà. Ni même dédié au syndrome des ovaires polykystiques aujourd'hui.
Ouais.
Le traitement, en fait, il est symptomatique en fonction, en fait, j'insiste là-dessus, en fonction de ce qui gêne la patiente, en fonction de ce qu'elle va exprimer aux professionnels de santé. Ça, je le dis toujours aux personnes diagnostiquées, c'est vrai que si vous vous plaignez de rien, c'est vrai que voilà, le professionnel de santé ne va peut-être pas vous proposer une thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en l'occurrence... Il n'y a pas de thérapeutique dédiée. Donc typiquement, ouais. Par exemple, moi j'ai un traitement pour mon hyperandrogénie qui est en fait un hypotenseur, et ils se sont rendus compte que ça avait un effet aussi sur l'hyperandrogénie. Et donc voilà, c'est un peu dérivé. Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, j'imagine qu'il y a des personnes qui écoutent qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que suite à la mise à jour des recommandations internationales l'été dernier...
Ouais.
La pilule œstroprogestative est toujours en fait en première ligne thérapeutique pour le syndrome des ovaires polykystiques aujourd'hui.
Okay.
C'est toujours ce qui serait proposé en fait en première intention. Je le dis, après on vous la propose, vous la prenez pas, c'est un choix personnel.
Ouais.
Mais en soi, si le médecin vous la propose, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il n'y a pas d'erreur hein, médicale, c'est bien aujourd'hui la première ligne thérapeutique pour le syndrome des ovaires polykystiques.
Ouais.
Après, il y a différents niveaux d'atteinte et de gêne par les symptômes selon les patientes. Donc il y a des femmes qui vont choisir de ne pas prendre en fait de ouais. traitement allopathique, mm-hmm. Et qui vont travailler leur hygiène de vie, et ça suffira en fait à l'amélioration des symptômes cliniques qui les gênent dans leur vie, ouais. en fait. Hein.
Parce qu'en fait c'est ça, il n'y a pas de traitement pour guérir du SOPK.
Non.
Par contre, il y a des choses qui permettent d'améliorer les symptômes et de faire en sorte que la vie elle soit moins...
qu'on puisse vivre compliqué. Le plus normalement possible.
Voilà.
Et qu'on puisse, si on présente une infertilité, voilà, mener à bien le projet parental. Hein. C'est pour l'infertilité, après je ne l'ai pas évoqué, mais il y a une prise en charge en AMP, bien sûr, pour les personnes qui ont besoin d'une assistance médicale pour avoir... pouvoir tomber enceinte.
Ouais, ok. Où en est la recherche, du coup, pour ce traitement? Est-ce que c'est possible... Est-ce que toi, en plus, tu penses que peut-être... Est-ce que c'est possible d'avoir un traitement un jour qui pourrait, potentiellement faire en sorte qu'on guérit? Ou est-ce que... non?
Ou,
à la rigueur...
Alors, je vais répondre à ça. Comment répondre à ça? Que j'espère qu'un jour, il y aura un traitement pour le syndrome des ovaires polykystiques, si pas curatif, suspensif, c'est-à-dire ouais. qui nous permettent de vivre normalement comme si on n'avait pas de pathologie. Bien sûr, je le souhaite, je l'espère, et bien sûr, c'est ce qui nourrit mon engagement associatif.
Bien
donc
sûr, ouais.
oui, je l'espère. C'est pas pour tout de suite.
Ouais, voilà. La recherche évolue quand même.
Alors, il y a des pistes de recherche. Ce qu'il faut savoir, et je le dis là parce que quand on est diagnostiqué d'une pathologie,
ouais.
on a tendance à se dire que le traitement n'arrive pas assez vite, parce que nous, on vit avec nos symptômes et ça nous paraît très long, et on est en attente de quelque chose, Moi, je sais que le traitement, ce sera pas pour moi. Voilà, si j'ai une fille, fille un jour, j'espère que et qu'elle a un SOPK, j'espère qu'elle pourra en bénéficier, c'est sûr. Après, il y a énormément de recherches sur le syndrome des ovaires polykystiques actuellement. Mmh. Et ça, nous, en tant que patiente, on le voit pas.
Ouais.
Mais c'est quand même un sujet qui est très recherché. On est encore en train de chercher et de comprendre les mécanismes de la pathologie, ce qui est essentiel pour pouvoir amener un jour à ce qu'on ait une thérapeutique. Aujourd'hui, la recherche a quand même permis de mettre en avant des choses très intéressantes sur la pathologie, notamment le fait qu'il y ait un facteur génétique qui est un facteur environnemental, puisque d'un pays à l'autre, c'est pas la même prévalence. Ça, c'est quand même très intéressant de le savoir. Il y a des pays où on est à une femme sur cinq, hein, quand même. Hein. Je sais pas si tu te rends bien compte, c'est assez
c'est quel
énorme.
Pays d'ailleurs, tu sais ?
L'Inde.
Ah ouais.
Voilà, entre autres. Mmh. Ça a aussi permis de mettre en avant le caractère héréditaire de la pathologie.
Bien sûr, ouais.
Donc voilà, ça c'est la science qui nous a permis de mettre ça en avant. On sait aujourd'hui que, par exemple, sur une fratrie où maman a le SOPK, elle a deux filles qui ont le SOPK, un garçon, maintenant on sait que ça arrive assez fréquemment que le frère, hein, donc de la fratrie, présente des problèmes de santé métabolique.
Ah ok, d'accord, intéressant.
Parce que moi je me dis peut-être que maintenant que ça a une atteinte aussi sur les hommes, peut-être qu'on va essayer de nous soigner de manière plus.
C'est ça la porte d'entrée, il faut dire, attention, SOPK, ça peut-être une science sur les hommes, du coup.
Ça se présente différemment, mais des troubles métaboliques ont été observés. Donc voilà, et puis après la recherche a aussi permis, bon là je vais pas entrer dans les détails non plus, mais de mettre en avant plusieurs phénotypes, et ça c'est intéressant, c'est des pistes pour une meilleure prise en charge. Mmh. Après, vraiment, en recherche clinique, oui, il y a actuellement une recherche qui est niveau européen, qui s'appelle Spiomed for Health. Je peux t'en parler parce que je fais partie du panel consultatif de patientes pour cette étude. Il n'y a pas de cohorte en France, mais il y a 17 groupes dans 9 pays européens. Et le traitement, en fait, c'est trois molécules qui sont déjà fréquemment utilisées pour la prise en charge du SOPK en petit dosage et associé. Et l'idée, ce serait un traitement adressé, en fait, aux adolescentes dès l'apparition des premiers symptômes pour limiter l'évolution rapide de la pathologie dans les premières années.
Okay.
Donc ça, c'est une étude clinique pour voir est-ce que ça fonctionne ou non. Et pour l'instant, écoute, on en est là pour la recherche, mais voilà, je veux avoir une parole rassurante à ce niveau-là, c'est qu'il y a énormément de recherches sur la pathologie. La recherche ne nous oublie pas, voilà.
Ouais, voilà. On dit souvent qu'on peut... Enfin... En tout cas, c'est ce que je lis hein, un peu partout, là, qu'on pourrait inverser le SOPK en perdant du poids. Est-ce que c'est vrai ?
Eh bien non. Non, vous serez plus mince, mais vous aurez toujours le SOPK, en fait. Voilà, si c'était si simple, ça se saurait. Mm-hmm. Là, quelque chose, par contre, que la science a mis en avant, et je pense que, du coup, ce raccourci vient de là, c'est qu'une perte de 10% du poids permet de... Enfin, c'est des études qui ont mis ça, qui ont permis de conclure que perdre 10% du poids, en fait, ça permet de rétablir l'ovulation.
Ok.
Voilà. Donc, dans le cadre d'une prise en charge d'infertilité. Ensuite, est-ce que c'est la perte de poids qui contribue à rétablir l'ovulation, ou est-ce que c'est tout ce que t'as mis en place à côté? Et souvent, quand les personnes ont une démarche de perte de poids, surtout dans ce cadre-là où on cherche à avoir un bébé, il y a plusieurs choses. C'est que ce qui se passe dans l'assiette, c'est qu'on va essayer de manger bio, peut-être de manger moins transformé. Mmh. Est-ce que c'est l'activité physique ? Voilà, la personne, elle a fait 20-30 minutes de marche. On sait que c'est bénéfique pour la santé, pour la longévité. Mmh. Est-ce qu'elle a essayé de mieux gérer son stress ? Est-ce qu'elle a essayé de mieux dormir ? Et c'est toutes ces actions, en fait, bout à bout, qui font la perte de poids. Donc, est-ce que c'est la perte de poids ou est-ce que c'est ce qu'on a mis en place et qui a, comment dire, enclenché cette perte de poids ? Moi, je pense que c'est plutôt ce qu'on met en place. Mmh. Pour perdre le poids qui contribue à une meilleure santé, pas du tout. Mmh. La balance, la pesée, non, ça, j'y crois pas.
Ouais. Non, mais voilà. je vois tout à fait, ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, quand on parle quand même des gens se disent « Ah, voilà, je me sens mieux, je me sens peut-être en meilleure santé en étant plus mal en perdant du poids. » Et souvent, en fait, c'est parce que peut-être que t'as fait plus de sport, t'as une meilleure hygiène de vie au global parce que t'as mis en place des choses pour perdre du poids, mais du coup, souvent, c'est des trucs d'hygiène de vie ou je sais pas quoi. Et du coup, ce raccourci de perte de poids, c'est ça qui fait que... Alors que t'as raison de préciser qu'en fait, il y a plein de facteurs et qu'en fait, voilà, peut-être qu'il y a des variables qui ont changé et qui ont fait que, in fine, le SOPK, enfin les symptômes, soient plus sympas,
s'il te plaît.
Exactement. Alors l'hygiène de vie, je pense que les gens ont tendance à réduire ça en fait à l'alimentation et à l'exercice physique, à l'activité physique.
Le stress, t'as pas
bien sûr, mais la gestion du sommeil, le psycho-émotionnel, la gestion de l'anxiété. Je veux dire, vous pouvez avoir l'alimentation parfaite entre guillemets, faire une heure de sport tous les jours, si vous dormez mal, que vous détestez votre job et que votre relation se passe mal, l'hygiène de vie, elle est vraiment pas optimale.
Ouais. Mais j'avais fait un épisode sur les 5 manières de prendre soin de santé sans se mettre au régime. Mm-hmm. Donc je parlais du sommeil, du stress, etc. Des choses qu'on parle... On parle un peu, mais on oublie. Enfin, je pense qu'on reste vraiment ce côté, santé, c'est ta bouffe et ton sport, quoi, grosso modo. Et en plus... Ah, après, quand tu traînes sur Instagram...
Alors que la gestion du stress, c'est la base de la pyramide, hein.
Oui, surtout, ouais.
Surtout quand il y a une pathologie.
Voilà, exactement. carrément. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est poids, etc., j'ai l'impression que, en tout cas de moi, de ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le SOPK, du coup, et qui sont touchées par de la grossophobie médicale. Enfin, moi, j'ai déjà eu des témoignages, ce genre de choses, déjà, via mon compte, par exemple, où des femmes me disaient, j'étais dans tel médecin. Enfin, j'étais voir tel médecin, etc., j'ai le SOPK, et en fait, il m'a dit de perdre du poids, ou il lui a mis une certaine pression. Et en plus, on les invite souvent à faire des régimes pour améliorer leurs symptômes. Et toi, est-ce que, du coup, vu que tu es vice-présidente de la SOPK Europe, est-ce que tu as eu des témoignages dans ce sens, et du coup, est-ce que tu pourras en parler de tout ça?
Oui, effectivement. Alors, tu seras pas surprise, mais c'est vraiment incroyable le nombre de femmes que je rencontre ou dont je lis les témoignages qui s'imposent des restrictions, un mode de vie avec des mesures absolument drastiques et restrictives. Et en fait, tout le monde trouve ça normal qu'elles sacrifient leur vie sociale, le plaisir de manger sous prétexte qu'on sait pas soigner la pathologie. Franchement, moi, je sais que ça me rend dingue et je trouve que c'est confortable en fait de se reposer sur cette idéologie gestionnaire de la santé, de se dire qu'on est responsable de nos maux et de nos difficultés. Et vraiment, c'est plus facile de se raconter cette histoire que d'assumer qu'au niveau sociétal, finalement, c'est quand même une histoire de grossophobie, de misogynie et en fait de sexisme finalement. Moi je pense que le discours autour du SOPK, celui autour de la minceur, enfin tout ça c'est une question de la misogynie et du sexisme. Autre chose, je l'ai dit juste avant, mais seule l'AMP est prise en charge en ALD pour le SOPK aujourd'hui. Et ça je trouve que...
ALD, tu peux redire ?
Affection longue durée.
Ok.
Donc voilà, ça veut dire qu'on est réduite à la fonction reproductrice, finalement, dans notre prise en charge. Je trouve que c'est quand même aussi interpellant. Et finalement, la dégradation de la qualité de vie, c'est moins important que le réarmement démographique, tu vois. Donc je trouve que c'est pareil, c'est aussi quand même un signe que la prise en charge, elle est un peu genrée.
carrément. Tu sais, c'est marrant, ça me fait penser à, tu vois, quand... tu es en aménorrhée, par exemple.
Oui.
Et que tu vas voir ta gynéco et que t'en aménorrhée, elle va te dire tu veux des enfants? Toi, tu dis non. Elle va te dire ok, bon, on s'en fout alors. Enfin, un petit peu, dans l'idée. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le SOPK, dans le sens que, la prise en charge, ça va être pas pour avoir des enfants. Mais sinon, après, tant pis si ta vie, tu morfles ou si, on te dit de mettre des mesures, comme tu dis, drastiques et qui font que ta santé mentale, sociale, etc., tutti quanti, elle part à volo, quoi.
C'est intéressant que tu parles de l'aménorrhée parce que justement l'aménorrhée c'est aussi un symptôme de SOPK, hein, les règles qui s'arrêtent pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et aujourd'hui on sait, en tout cas dans le cadre du SOPK, que c'est un facteur de risque du cancer de l'endomètre. Donc à surveiller, si vous n'avez pas vos règles tous les 3-4 mois, ça vaut le coup d'en parler aux professionnels de santé qui vous suivent. Restez pas 4 ans sans avoir vos règles, s'il vous plaît.
Surtout, oui. Puis en plus, moi pour le coup, je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'aménorrhée secondaire à cause des restrictions, etc. Hein, parce que souvent, c'est un effet direct. Hein. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode avec Florence Gillet qui a écrit le livre Je n'ai plus mes règles, la version française. Et du coup, je remettrai dans le descriptif de l'épisode. Mais on avait aussi parlé un petit peu de ça. Et c'est vrai que c'est drôle, entre guillemets, qu'on retrouve aussi cette logique, on va dire, avec le SOPK.
Oui. Après, des témoignages spécifiques qui me viennent en tête. Pas spécifiques, mais vraiment, moi, dans mon investissement associatif, j'ai rencontré des centaines de femmes que je vois vraiment passer à côté de leur vie et se priver de toute vie sociale pour améliorer, paradoxalement, leur qualité de vie.
C'est vrai. Oui, il y a un peu ce truc-là. Tu sacrifies beaucoup de choses pour...
Parce que t'es une femme ?
Voilà. Exactement. Parce que, et puis en plus, enfin, pour améliorer des symptômes, mais en fait, tu t'en crées, enfin, c'est comme si tu te créais une autre, enfin, t'en sors pas,
exactement.
En fait.
Ben oui, c'est ça, c'est très contre-productif, mm-hmm. Et surtout, c'est source de difficultés en santé mentale, ça, enfin,
bah oui.
C'est quand même un stress pour le corps, la restriction, au final.
Bien sûr.
Tu te retrouves avec un poids similaire, mais un état qui est empiré. Moi, si je peux te donner un témoignage, du coup, moi, c'est le mien. Moi, je suis passée par des schémas restrictifs, et en fait, j'allais encore plus mal. C'est-à-dire que, comment t'expliquer ? Moi, j'ai été diagnostiquée jeune, et on m'a prescrit la pilule.
Ouais.
Comme on m'a pas forcément détaillé toutes les implications de la pathologie, j'ai vécu ma vie normalement.
Ouais.
Et quelques années plus tard, donc pour te dire, en 2012, j'ai à nouveau une flopée de symptômes qui sont arrivés... voilà, comme un boomerang, quelquefois là, mes cheveux qui tombaient, je passais ma main dans mes cheveux, tout me restait dans les mains. Oui, c'était très très difficile, je garde pas un bon souvenir vraiment de ces années-là. Et justement, en fait, j'étais tellement désespérée d'aller mieux, et puis forcément, j'avais googlé, à l'époque j'avais trouvé des informations en anglais, et je me suis vraiment installée dans un schéma très restrictif, alors aussi bien dans la gestion de mon énergie et de ma fatigue chronique, c'est-à-dire que voilà, je sortais vraiment pas beaucoup, hein. C'était jamais un verre d'alcool, j'anticipais, alors attends, si ce soir je sors, je vais au restaurant, c'était ça, hein, c'est la culture des régimes qui est venue se mettre là-dedans aussi.
Ouais, c'est ça, c'est la même charge mentale.
C'est exactement ça,
ouais.
qu'est-ce que je vais manger, ah mais oui, mais attends, parce qu'il faut que je mange des légumes, faut pas que je prenne un trop gros petit-déj, parce que ce midi, je sors, et truc, et en fait... la place que ça prenait dans ma tête, et mon SOPK n'allait pas mieux,
en plus, ouais.
Tu vois, donc, parce qu'aujourd'hui, je pense plus à tout ça, et je suis quand même dans un meilleur état psychologique et clinique, donc voilà,
oui,
je pense pas
ça.
Que ce soit... en plus, par ailleurs, la restriction, c'est, voilà, comme je disais, un stress pour le corps, ça accentue la fatigue chronique, la charge mentale, de pas manger assez, ça peut provoquer des carences, hein, donc nous, ça nous aide pas non plus.
Bah oui.
Donc voilà, finalement, c'est facile, c'est logique de tomber là-dedans, et je pense que finalement... Moi, j'ai l'impression que toutes les personnes diagnostiquées, à un moment, elles le frôlent ou elles s'en rapprochent d'un petit peu trop près.
Bah, mais c'est logique. Ce qu'on leur sert, tu es dans ce schéma-là, tout de suite, c'est genre, bah, vas-y, restreins-toi, quoi.
Et on cherche à aller mieux à tout prix, tellement on est mal, en fait.
Ouais, c'est ça. Oui, en plus, t'as ce côté aussi, désespoir, errance médicale, tout ça, qui s'ajoute, tu vois, à ta détresse, en fait, et qui font que tu es prête, du coup, à mettre en place ce genre de restrictions qui te sont encouragées et qui te sont servies comme le truc pour t'aider. C'est, tu vois, moi, je pense au contenu, forcément, moi, je suis sur Instagram beaucoup. Tu vois, quand tu vois tes posts passer sur les SOPK, le nombre de gens ou de coachs ou je sais pas quoi qui viennent et qui te disent « j'ai une solution pour toi », parce qu'en fait, bah, voilà, il y a ce désespoir quand tu parles, de te parler, et qui te dit « bah oui, fais ça, fais ci, mange comme ça », et en fait, quand tu vois la quantité de choses que tu dois gérer, que ce soit alimentation ou même après, en plus, si tu ajoutes une sorte de gestion entre guillemets de ton stress, etc., et que tu le vois comme un truc, tu vois, très comptable de ton stress, tout ça, tu peux devenir, je pense, enfin, ta santé mentale, je pense qu'elle l'empathie beaucoup, quoi.
C'est ça. Et puis l'anxiété, enfin, ça fragilise encore plus les patientes et leur santé mentale, alors que l'anxiété, c'est déjà un sujet chez les femmes qui sont diagnostiquées dans les SOPK. Ouais.
Bah oui, tu m'étonnes, ouais. Mmh. Du coup, bah, ça revient à ma question que je voulais te poser, parce que bah, donc, ces fameux contenus là, de ces professionnels qui mettent en avant. D'ailleurs, un régime particulier, tu sais, qui disent il faut manger comme ça pour les SOPK, bon, ou il y a la
c'est
mode.
Pas forcément là. Des professionnels de
ouais,
santé
c'est
qui
pas
disent
des professionnels
ça, mais bon.
De santé, oui, en plus, c'est ça. Ouais, il y a un mix. mais tu vois, moi, je vois, je sais pas, tout ce qui est aussi trucs anti-inflammatoires, machin, etc. Enfin, en tout cas, moi, je vois beaucoup de contenus qui prennent certaines alimentations pour améliorer certains SOPK et qui sont, bah, voilà, qui m'ont l'air très restrictifs en plus, enfin, comme type d'alimentation, une alimentation restrictive. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça
Oui, bah, effectivement, comme on cherche à aller mieux à tout prix, on veut tout essayer. Là, j'en ai parlé en intro, c'est quand même une pathologie sur laquelle il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de dérives.
Mm-hmm.
Voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est surtout symptomatique en fait d'une prise en charge qui aujourd'hui ne satisfait pas les patientes. Et vraiment, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter.
C'est vrai.
À l'association, c'est les conclusions qu'on en tire en tout cas.
Ouais.
Alors, par rapport au régime alimentaire, bah, je suis désolée de te décevoir, Juliette, mais aux dernières nouvelles, et quand je parle des dernières nouvelles, c'est le congrès mondial du SOPK en octobre dernier.
Okay.
Les sociétés savantes et les études menées ne permettaient pas d'affirmer qu'un régime alimentaire serait plus favorable qu'un autre pour le syndrome des ovaires polykystiques.
Allez, aïe.
Donc voilà, manger de tout, en quantité qui convient, de manière variée. Manger assez de protéines, ça par contre, ça a, été cité. Et puis bah, manger des légumes quand même, voilà, c'est important de manger des légumes quand vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Et puis moi j'ai envie de dire manger assez tout court aussi. Et en soi, il n'y a rien à éliminer. Pas besoin de manger dans un ordre particulier. Ça, c'est de la pop science.
Cause de goddess. Hein.
Voilà. Enfin, moi, je l'ai vu à l'assaut, par contre. Hein. Ça a fait des ravages chez les personnes diagnostiquées. Et c'était pas systématique, bien sûr, mais qui se sont mis à manger de la salade vinaigrette le matin. Donc, voilà. Je pense qu'il y a par contre un enjeu qu'il faut avoir en tête avec le SOPK. C'est important d'apaiser sa relation avec la nourriture. Vraiment. Parce que le SOPK, c'est pour toute la vie. Ça, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Ça s'arrête pas à la ménopause. Hein, comme c'est une maladie hormonale et qu'on produit des hormones toute notre vie. En fait, si vous arrivez à apaiser votre relation avec la nourriture, et vraiment, je peux que vous recommander de le faire, ça va quand même améliorer justement aussi votre qualité de vie. Ça va vous enlever beaucoup de choses de la tête.
Bah oui.
Vraiment. Et ça va être agent facilitateur pour votre vie de tous les jours. Et voilà. Et puis, je reviens sur la vie sociale aussi. Parce que si vous n'avez pas de vie sociale, vous vous enfermez seul avec votre pathologie.
Bah, la santé sociale, c'est... La santé, selon l'OMS, c'est sociale, physique et mentale. Hein.
Après, par contre, je peux pas occulter que l'hygiène de vie fait partie de la prise en charge, mais là encore, ça ne se réduit pas à l'alimentation. Et surtout, faut rien supprimer. Parce que voilà, on est sujette aux carences et faut surtout pas supprimer le gras. Parce qu'on fabrique nos hormones avec du gras. Avec les lipides. Et les hormones, en plus, par ailleurs, elles aiment pas quand vous avez faim et que vous vous laissez avoir faim. Donc voilà.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc on est d'accord, pas de régime hypocalorique, etc. quand on a un SOPK.
Non. Non. En fait, les régimes hypocaloriques et restrictifs, ils ont plutôt démontré leur inefficacité et leur danger à plusieurs égards, en fait, hein, dans le cadre d'un SOPK. Donc ça peut entraîner une perte de poids rapide, mais souvent, en fait, à force de trop grandes restrictions, ils sont intenables sur la durée. Ils engendrent beaucoup de frustration. Voilà, c'est le fameux yo-yo, hein, où on craque, on reprend le poids perdu. Pour les patientes, c'est extrêmement décourageant. Comme je te disais, ils peuvent engendrer des carences alimentaires. Le fait de ne pas fournir assez de nutriments et d'énergie au métabolisme, c'est une hérésie, hein, quand on a le SOPK, parce que justement, on a besoin de soutenir notre organisme. Également, si un régime de ce type est suivi sur une trop grande période, autre problème dans le cadre du SOPK, le métabolisme risque de s'effondrer, de ralentir, alors que voilà, il y a quand même des périodes avec le SOPK où le métabolisme il est un peu paresseux. Au contraire, il faut aider, il faut soutenir son corps. Et je vais te citer, c'est que notre corps est quand même, même s'il nous échappe et qu'il nous embête, il est dans notre équipe et il faut savoir l'écouter. Et puis, par ailleurs, ces régimes, souvent, ils diabolisent une catégorie d'aliments. Dans le cadre du SOPK, on peut citer les sucres, les glucides, hein, qui sont quand même notre principale source d'énergie. Quand tu souffres de...
qui est l'ennemi numéro un pour beaucoup de gens.
Non, mais supprimer les glucides, source d'énergie, quand tu souffres de fatigue chronique, c'est quand même... Où je te disais, les bonnes graisses à partir desquelles sont fabriquées nos hormones. On en a besoin.
En fait, c'est tous les effets de... Tu sais, il y a eu aussi des études sur les régimes... amaigrissant, le rapport de l'ANSES, etc. Ça corrobore vraiment ce qu'on entend, en fait, sur les restrictions. Et c'est intéressant que tu le dises là, parce qu'il y a tellement de personnes qui justifient, en fait, ce genre d'alimentation ou de régime en disant « Bah, moi, j'ai une pathologie, donc je suis obligée d'avoir ça, de faire ça. » Et vu que c'est ce qu'on nous sort, on nous sert sur les réseaux et même dans les milieux de santé, eh bien, c'est quand même assez... c'est toujours important de le rappeler, quoi.
C'est ça.
Et toi, d'ailleurs, est-ce que t'as vu des patientes, enfin, via l'asso ou même dans ton expérience perso, des patientes développaient en fait des troubles du comportement alimentaire à cause de ces injonctions à la perte de poids, à tous les contenus très diet culture liés au SOPK, etc.
Oui, effectivement, il y a un marché sur le SOPK vu qu'on est 2,5 millions en France, donc effectivement, on croise souvent ces contenus. Alors la relation à l'alimentation troublée, anxieuse, j'ai l'impression que après un diagnostic de SOPK, il y a forcément un moment où ça arrive. Je pense que, comme je disais, l'important c'est d'essayer d'en sortir. Mais oui, je vois beaucoup de personnes qui se mettent des règles, des schémas restrictifs, qui tombent dans le craquage, elles culpabilisent parce qu'elles ne tiennent pas. Elles ont l'impression que c'est leur faute, surtout.
Bien sûr, ouais.
Donc là, il y a quand même un fait, c'est qu'on voit une responsabilité sur une patiente qui a perdu espoir, qui veut reprendre contrôle sur sa pathologie. Et paradoxalement, dans notre prise en charge, nous, on a peu d'accompagnement en ce sens. Maintenant, de plus en plus, les diététiciens, les diététiciennes sont sensibilisés au syndrome des ovaires polykystiques. Mais là encore, c'est pas dans notre prise en charge, en fait. c'est-à-dire tu y vas si tu, allez, si tu peux te l'offrir en fait, hein. C'est comme le psychologue, ouais. c'est pas pris en charge. Mmh. Et finalement c'est le discours santéiste un petit peu, hein.
Ouais, c'est
un sujet qui revient aussi régulièrement, il y a quand même une moralisation de notre alimentation, notre charge mentale empire l'état anxieux. Disons le stress que tu te mets à te dire oui mais alors attends, si je mange un gâteau il faut que je fasse attention, le stress en fait est pire que de manger le gâteau, c'est ça qu'il faut retenir.
Ouais, exactement. Ça je le dis tout le temps aussi, ce genre de choses, hein.
C'est clair. Et en fait, malheureusement, quand t'as une maladie chronique, moi je trouve qu'on doit beaucoup organiser notre vie autour de la pathologie, sur plein de points déjà, à la base. Ouais. Donc faire attention surtout à ce que ça déborde pas. Et donc pour revenir à la question et du le développement des troubles du comportement alimentaire, en fait on sait pas dire aujourd'hui est-ce que les patientes qui sont diagnostiquées d'un SOPK sont prédisposées à développer des troubles du comportement alimentaire,
ouais.
Ou est-ce que c'est tout cet environnement autour de la pathologie qui les provoque. Moi je pense qu'elle est plus provoquée que prédisposée, en tout cas j'ai le sentiment. C'est les injonctions, t'ajoutes à ça quand même la grossophobie générale, hein, voilà, l'injonction à la minceur, les images auxquelles on est exposé, etc. En tout cas, c'est 21% plus fréquent chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques diagnostiqué, hein, les troubles du comportement alimentaire.
C'est fou.
Voilà. Il y a aussi, pour te donner une autre statistique, un sujet général, parce que pour moi, les TCA, ça s'englobe dans un sujet général en santé mentale. Hein.
Bien sûr, oui.
Donc, il y a 7 fois plus de tentatives de suicide.
Ouais.
Chez les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, qui s'explique là aussi par plein de raisons. La charge mentale, la non-reconnaissance de la pathologie, le discours culpabilisant qu'on nous sert, ou que parfois, nous, patientes, on se sert entre nous. Hein. Des fois, il faut faire attention à être bienveillante dans ce qu'on dit. Et, enfin, je sais que des fois, sur les groupes Facebook, etc., des fois, je survole et je me dis, mais on est en train d'entretenir les problèmes, puisque voilà, une personne qui arrive qui dit, moi, j'ai arrêté le sucre, les féculents, etc., et ça va mieux. Et voilà, enfin, une jeune diagnostiquée tombe là-dessus, une personne qui a un diagnostic récent, enfin voilà, t'imagines les conséquences que ça peut avoir.
Oui, en plus surtout que peut-être que toi t'as mis en place des trucs et t'as l'impression que c'est ça qui t'a aidé.
Oui.
Du coup tu vas être beaucoup dans le conseil en disant, ah mais moi j'ai enlevé le sucre et tout, donc fais ça, etc. Puis toi bah tu te fais un peu plus influencer, j'ai envie
c'est
de dire.
C'est le biais de confirmation.
Bah oui c'est ça, exactement.
Moi à travers ma lunette associative, tout cet environnement en fait autour de la pathologie, je le vois là encore comme juste un symptôme de la perte d'espoir des patientes face justement au fait que l'absence de traitement curatif actuel fait qu'il y a un fossé en fait et nous du coup patientes on cherche à le combler forcément on cherche, c'est naturel en fait de vouloir
trouver une
solution. Après t'ajoutes à ça qu'il y a une sensation générale quand même de vivre dans un corps qui nous échappe, qui nous déstabilise, la confiance en soi est fragilisée, la fatigue chronique ça contribue aussi à une fragilisation en santé mentale. Et en fait c'est intéressant parce que on voit l'injonction à la meilleure alimentation entre guillemets, à l'activité physique pour les femmes qui sont diagnostiquées d'un SOPK. Comment dire, c'est un cercle qui est pas vertueux, je trouve, parce que quand justement on est en train de se débattre avec notre santé mentale, l'anxiété, les états dépressifs, les TCA, peu importe, c'est difficile de travailler son hygiène de vie. On n'a pas du tout la bande passante pour ça. Et donc tu culpabilises encore plus parce que tu y arrives pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux.
Ouais. Ça peut être un refuge aussi.
Oui.
Ce contrôle, justement.
Exact, oui. Oui, oui, puis surtout, en fait, si tu le mets, il y a un contexte quand même d'omission de la maladie générale.
Bah ouais.
Et c'est pour ça, en fait, que ça me fâche vraiment toutes ces bêtises qu'on lit sur Instagram, que tu dénonces d'ailleurs dans ton podcast, c'est que les patientes sont fragilisées. Nous, chez SOPK Europe, on les défend. Il me tient à cœur, moi aussi, de les défendre à titre personnel. Et on les met en garde, en fait, contre ce type de dérive et de raccourcis, en fait, qui finalement exploitent les difficultés des femmes.
Exactement, ouais, c'est ça. Après, tu vois, il y a des gens, ils essayent de bien faire, entre guillemets, j'imagine, tu vois. Je pense à des naturaux, ce genre de choses, qui peuvent peut-être avoir un fond bienveillant l'idée, mais voilà, je pense que nourrir des faux espoirs et même transmettre des choses qui sont dangereuses en fait, même si ça part d'un bon sentiment à la base, c'est quand même assez grave en fait. Fin...
Et on l'a vu, il n'y a pas de solution universelle pour la prise en charge du SOPK, c'est plutôt une prise en charge individualisée qui fonctionne.
Ouais, voilà. En plus de ça, on a déjà vu, mais des contenus sur Insta ou même c'est des hommes qui parlent de SOPK et qui... qui mansplain à des femmes leur propre maladie, leur propre pathologie.
Ah non, mais...
Et qui disent savoir mieux que
Science. je me suis toujours dit qu'un jour, je sortirais un best-of des trucs que j'ai lus. Ah, parce que franchement, Ouais, à ce stade, je t'assure, 300 de militantisme, je pense que j'ai tout vu, là. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais je vois pire, mais... Ouais. Non, mais qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois ? Voilà, le SOPK va disparaître en améliorant ton alimentation. Mais c'est très grave de dire ça.
Disparaître, ouais.
Mais vraiment. Oui. Mm-hmm. Je sais plus si c'était exactement le mot. Si tu veux, je peux retrouver hein, le verbatim, là, mais... c'est voilà, enfin tu as une patiente qui arrive, qui vient d'être diagnostiquée, ça se passe mal, c'est difficile à encaisser, etc. Parce qu'un diagnostic, on l'oublie, mais il faut aussi faire le deuil de sa vie sans la pathologie. Donc mm-hmm. c'est un moment de tristesse, de détresse. C'est vrai. Voilà, elle arrive, elle tombe sur un truc comme ça. Enfin, faut faire attention quand même.
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, ça, je le dis tout le temps, que ce soit des contenus de la diet culture, mais c'est clair que oui, voilà, que si on a une pathologie comme le SOPK ou même autre, hein, je pense que ça. Je suis persuadée que d'avoir le même truc, mais pour le diabète ou ce genre de choses. Hein,
oui.
Donc, ouais, faire gaffe, quoi. Ce qu'on lit et ce qu'on...
Oui, c'est...
Ce qu'on applique, quoi.
Surtout, sur les réseaux, tout le monde peut devenir expert de tout. Donc,
c'est ça.
Voilà,
ouais, ouais,
prenez garde aux informations que vous consultez.
Ouais.
Multipliez les sources d'informations, c'est un bon moyen aussi de...
Mmh. Puis des informations peut-être plus fiables, comme, bah, je pense, votre asso
oui.
ou votre compte. Enfin, je veux dire... Voilà, je pense que justement, vous êtes actif contre la désinformation, j'imagine que c'est bien pile femme.
C'est une mission qu'on a prise malgré nous, hein.
Ouais, c'est important. Et du coup, si on revient à l'alimentation un petit peu, enfin, on n'était pas parti, mais par rapport à toi, justement, toi, Emeline, parce que pour en avoir déjà discuté avec toi, je sais que tu manges assez intuitivement, enfin, je dirais, tu ne
oui.
te resteras pas, etc., tu t'écoutes.
En tenant compte de ma pathologie.
En tenant
aussi, ouais.
compte de ta pathologie, exactement. Parce que, tu vois, moi, en alimentation intuitive, bah, justement, c'est un principe qui est le principe 10, qui est la nutrition bienveillante, où on parle justement du fait que on peut manger intuitivement, même si on a une pathologie, juste on la prend en compte, et donc du coup, peut-être qu'il y a des ajustements à faire ou des choses à veiller.
Il y en a, ouais.
Mais on peut quand même manger intuitivement. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience du coup avec l'alimentation intuitive ? Et est-ce que c'est une... Voilà, comme tu disais, bah après on a parlé des TCA, donc je pense que c'est quelque chose que tu préconises un peu plus que de troubler son alimentation, mais
oui.
Voilà, est-ce que tu peux parler de ça ?
Oui, bah effectivement, moi c'est ce que je fais depuis des années et je me sens vraiment mieux comme ça. Alors c'est assez intéressant, c'est que... Alors là aussi, il y a un biais de confirmation parce que ça me concerne forcément, mais moi j'ai l'impression que c'est allé mieux quand j'ai arrêté de me triturer avec ce que je mangeais, à quelle heure, et etc. Mm-hmm. Tu vois, c'est quand j'ai libéré mon esprit, j'ai l'impression que mon corps est allé un petit peu mieux aussi.
Ouais.
Déjà, moi à la maison, c'est facile, il n'y a pas de balance et pas de pesée. Je suis pesée chez le médecin.
Ouais.
Donc rien que ça, déjà, moi, ça m'a enlevé quand même une charge importante.
Mm-hmm.
Pour moi, ce qui est important, c'est... Voilà, je respecte quand même mon corps et les sensations de faim. Il y a quand même quelques principes d'hygiène de vie pour moi qui prévalent sur l'alimentation. Dans ma vie de tous les jours, je fais notamment, voilà, comme je te disais, attention au sommeil, à la gestion du stress. Alors
ouais.
c'est facile à dire, mais pas facile à faire, mais j'essaye quand même vraiment de gérer mon stress, mon anxiété. Après, je pense que dans la vie de tous les jours, au niveau de l'alimentation, je pense plutôt ajouter et non retirer,
exact.
Par exemple.
Ouais,
manger...
bah justement, c'est
voilà.
quelque chose qu'on voit aussi dans le principe 10, c'est toujours d'ajouter au lieu de retirer,
voilà.
ouais, carrément.
Manger plus de légumes pour le SOPK, moi je suis résistante à l'insuline en plus, donc manger suffisamment de protéines. Par rapport à la résistance à l'insuline aussi, c'est surtout une question d'association alimentaire.
Ouais, c'est ça, manger
finalement.
Plus complet en fait, enfin de...
Oui.
Dans le repas, on va dire.
Et pas des glucides seuls.
Voilà, c'est ça.
Ça, je le sais, par exemple. C'est vrai que si je mange des glucides seuls, moi, deux heures après, je crache...
Ouais. Oui, c'est
voilà.
ça, c'est d'avoir, disons, les briques qui sont là, en fait, pour pas que les glucides, mais
c'est ça.
Les lipides, les protéines.
C'est ça. Après aussi, dans quoi on mange, hein, faut limiter, enfin moi j'essaye quand même de limiter les perturbateurs endocriniens,
ouais.
donc typiquement mon repas du midi au travail, je le prends dans un contenant en verre pour
en
pas
verre,
mettre
ouais.
un contenant en plastique, pardon, pas citer de marque, au micro-ondes, voilà,
ouais,
et libérer du bisphénol dedans et l'ingérer, parce que ça aussi, hein, ça a un rôle malheureusement sur le syndrome
ouais.
des ovaires polykystiques.
Et ça encore, on peut essayer, parce que ça aussi, c'est important de le dire aussi, je trouve, c'est on peut essayer de limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens, mais sans que ça devienne non plus
oui.
une obsession, tu vois,
oui.
on gêne...
Après, moi, je sais que je fais très attention à ça, pour le coup.
Ouais.
En fait, les perturbateurs endocriniens, par contre, moi, ça... Je vois la différence quand je baisse ma garde, un peu. Ça dépend des gens, en fait, mais moi, je pense que ça a contribué à une amélioration des symptômes
ouais.
cliniques, et c'est dommage parce qu'il y a peu de sensibilisation des patientes à ce sujet.
Ouais, après, est-ce que c'est peut-être faire gaffe, mais se dire que bah, après, il y a des choses on peut pas contrôler non plus à 100% parce
Non, l'air qu'on respire, typiquement, on peut
rien
faire.
La vie, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est ton environnement. Oui, là, voilà. Si là, on est à Lille, bah, si on chope des perturbateurs endocriniens, la pollution, ce genre de choses.
Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a une partie sur laquelle on a la main. Les contenants, par exemple, les cosmétiques qu'on va utiliser. Donc, faut pas perdre tout notre espoir non plus parce qu'il y a une partie des choses qu'on peut, qu'on peut maîtriser. Voilà, c'est pareil, faut pas que ça devienne une charge mentale. Puis après, en fait, ce qu'il faut, c'est que ça s'intègre comme une habitude. Pour revenir à l'alimentation, moi j'avais aussi été suivie par une diététicienne sur les moments critiques, ça peut être intéressant quand même. Par exemple, quand je préparais le marathon que j'ai couru pour parler du SOPK d'ailleurs, en mai dernier, moi j'ai été suivie par une diététicienne. J'ai réussi à gagner plus de 10 minutes sur mon chrono, donc je pense que ça a aidé parallèlement à l'entraînement. Ça m'a aidé à bien récupérer, à gérer ma fatigue chronique quand je préparais le marathon, hein, qui est quand même assez éprouvant pour le corps. Et vous pouvez bien entendu trouver des diététiciennes, des diététiciens bienveillants qui n'auront pas de discours moralisateur sur l'alimentation et sur le... Moi je trouve que ma vie a recommencé en fait quand j'ai arrêté justement de me focus là-dessus.
Ouais.
Sur l'alimentation, la place que ça prenait. Et c'est ça que je veux dire aussi justement si je m'adresse à des personnes qui ont un SOPK qui écoutent ce podcast, c'est qu'il y a une vie de l'autre côté aussi. Et moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Après, ça prend du temps. Je pense qu'il faut aussi être indulgente avec soi-même et ne pas culpabiliser si vous n'arrivez pas à achever l'hygiène de vie que vous cherchez à faire. Enfin, voilà. Soyez indulgente avec vous-même parce que sinon, ça va vraiment apporter des frustrations, des mauvais sentiments, des valorisations de soi, etc. Et on est suffisamment mis en défaut hein, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, donc voilà, c'est je pense qu'il faut pas s'en rajouter, quoi.
Ouais, t'as bien raison.
Et puis là je redis que votre corps vous lui en voulez, mais il est aussi, enfin, et surtout dans votre équipe. Moi, si je peux te donner une anecdote, bon, ça tu le sais, on est en train d'enregistrer, mais tu le sais parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai eu des soucis de santé récemment, et en fait au-delà des douleurs que je ressentais, ce qui m'a interpellée, c'était le fait que je perdais l'appétit, que j'avais plus d'appétit, que j'arrivais pas à finir mon assiette, si je forçais, j'avais très mal au ventre après. Bah là, en fait, pour le coup, je peux dire merci à mon corps de m'avoir interpellée sur le sujet, puisque voilà, quand je suis allée voir le médecin et qu'il m'a prescrit un examen, il s'est avéré qu'à l'examen, il y avait quelque chose dont je détournais mon attention depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça aussi, je trouve que l'alimentation intuitive, c'est aussi d'être à l'écoute de ses sensations. Et votre corps, c'est quand même un bon indicateur. Il vous parle, en fait. Il nous parle régulièrement, notre corps, et il faut l'écouter.
Ouais, c'est ça. En fait, en alimentation intuitive, on développe ce qu'on appelle la conscience interoceptive. C'est-à-dire qu'on...
J'ai appris un mot comme ça.
C'est tout ce qui est interoception, en fait. C'est d'écouter ces signaux, enfin, de les repérer, tu vois, d'être vraiment à l'écoute de soi et de percevoir, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent en fait cette conscience interoceptive, qui ne la développent pas du tout, mais du coup c'est hyper aidant parce que c'est utile pour bien des aspects dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup Emeline d'être venue sur le podcast.
Merci à toi, j'étais ravie de pouvoir venir te parler de ce sujet qu'on a souvent discuté en off et qu'on peut aujourd'hui partager dans le cadre d'un podcast. Moi, je suis très contente en tout cas d'être venue en parler avec toi aujourd'hui.
Franchement, merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté dans cet échange. Enfin, où on peut te retrouver, toi ou même l'asso, enfin, qu'est-ce que tu aimerais transmettre?
Moi, sur mon compte personnel, où je parle du SOPK un petit peu, mais pas que, hein, vous verrez aussi des photos de mon chat, de mes sorties, du militantisme. Mais sinon, bien sûr, sur le compte de SOPK Europe, donc c'est tout simplement SOPK Europe. J'imagine que tu mettras le lien, pour si vous êtes diagnostiqué d'un SOPK ou si vous connaissez quelqu'un qui en est diagnostiqué. Hein, c'est aussi une bonne ressource pour avoir des informations sur la pathologie.
Très bien. Encore merci Emeline, et puis
merci à toi.
À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram The Last Quiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.